Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
L'association Cactus à Quimper continue à nous proposer des expositions étonnantes. La preuve, en juin dernier, elle présentait les œuvres du collectif Ex Situ au Champ des Possibles à Plogonnec. Ce collectif, initié par les artistes-chercheurs Bart Perron et Fanche Doder, travaille à une recherche continue à la frontière entre art et science. Je les ai rencontrés in situ, et là, ils nous racontent tout sur cette drôle d'exposition où l'on découvre que la lumière et les plantes peuvent aussi faire preuve de grande créativité. Alors, je suis super contente d'être au Champ des Possibles à Plogonnec pour rencontrer deux bidouilleurs extraordinaires. Je vous laisse vous présenter.
Moi, c'est Fanche Doder.
Et Bart Perron.
Alors, vous proposez trois dispositifs.
On peut même dire deux dispositifs avec tout ce qui est en relation avec ces dispositifs, enfin les traces de nos travaux, quoi.
Alors si je résume, vous me dites si j'ai bien compris. Vous avez installé des petits capteurs sur des plantes vertes reliées à des boîtiers qui enregistrent chaque variation émise par la plante en fonction de variations atmosphériques type bruit, taux d'humidité, luminosité. Et ces données sont restituées sous forme d'œuvres artistiques sonores ou visuelles. Est-ce que j'ai à peu près résumé ?
Ouais, c'est bien résumé. On a effectivement des capteurs sur les plantes qui émettent et transmettent le biofeedback de la plante. Et on a des capteurs, des spectromètres, donc des capteurs de lumière, mais un petit peu plus précis qu'un capteur de lumière classique. Des capteurs de CO2, de particules organiques volatiles, de pression atmosphérique, température, hygrométrie, tout ça. Et chaque flux correspond à un paramètre qui va moduler une composition générative, une composition sonore, quoi, musicale. Donc quand le taux de CO2 monte à un endroit de la pièce, eh ben on va entendre un son qui correspond au CO2 et qui va s'intensifier et devenir de plus en plus régulier, quoi.
Et même chose pour le bruit, l'humidité, enfin, chaque type de variation donne une variation sonore.
C'est ça. Pour expliquer très vite fait, il y a une musique, une mélodie assez répétitive. En tout cas, quand on arrive, on a l'impression que c'est répétitif. Mais si on fait attention, ça change, ça évolue. En fait, on a une séquence de 6 notes qui, à chaque fois que la température augmente, va changer. Enfin, c'est les mêmes notes, mais l'agencement de ces notes-là vont évoluer. Et à chaque note correspond une bande de fréquence lumineuse. Donc le rouge va correspondre au la. J'ai plus les notes en tête. Mais s'il y a beaucoup de rouge, et ben le la sera accentué. S'il n'y en a pas, il sera quasiment absent. Donc ça va changer la séquence. Et vu qu'il y a plusieurs capteurs du même type, et ben les séquences se superposent. Et du coup, ça donne une impression de musique répétitive, mais évolutive.
Ouais, ça fait très musique répétitive, un peu à la Steve Reich et
ouais,
compagnie.
Carrément influencé par Steve Reich et Philip Glass. Et
voilà, ouais.
Et je cherche Terry Riley. Ouais. Ouais.
Alors, d'où vous êtes venue cette idée saugrenue de faire de la musique à des plantes vertes ?
Ah, c'est une très très longue histoire. Je pense que l'idée de faire de la musique, ça vient quand même plutôt de Fanche, qui est le musicien du binôme, et de manière plus générale de rendre audibles des phénomènes invisibles, parce que c'est ça en fait l'idée générale qui se cache derrière cette installation, et l'autre aussi d'ailleurs. Je parle pour toi Fanche, mais ouais, c'est vraiment ta démarche d'origine, avant qu'on se rencontre, t'étais déjà dans ces questions-là. Donc moi je me suis fait un peu embarquer dans cette recherche. Les plantes, d'où c'est venu, je pense que c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous les deux un truc en commun, c'est qu'on est on a une curiosité scientifique, un amour de la nature, tout simplement, enfin de la biologie, des phénomènes naturels, etc. Donc c'est un terrain d'entente, enfin en tout cas d'exploration commun, sur lequel on se comprend et on s'amuse bien. Et les plantes, je pense que c'est venu assez vite parce que c'est des choses, c'est des êtres vivants, mais qui sont plus simples à mettre en œuvre et à manipuler que des animaux ou des êtres humains. Donc c'est peut-être un peu pour ça. C'est une raison un peu pratique comme ça. mais aussi parce que c'est des êtres vivants qui, particulièrement les plantes vertes, elles ont un peu un statut d'objet aussi, parfois elles font partie du décor. Ouais. Et on oublie un peu que c'est des êtres vivants. Enfin, disons que la plante verte en pot, comme ça, a un statut un peu particulier. Et le fait de lui redonner un peu la parole, comme ça, à travers des capteurs, ça permet de reposer des questions sur qu'est-ce que c'est que le vivant, enfin, en tout cas, d'interroger ces questions-là de qu'est-ce que c'est que ce vivant qu'on met dans un pot et qu'on place dans une pièce ensuite, et parfois qu'on oublie.
Alors, donc toi, tu es plutôt Fanche, plus le musicien du collectif. Et toi, Bart, tu serais plutôt le scientifique ?
J'ai peut-être un tout petit peu plus de bagage scientifique, mais non plus. Non. Sur l'informatique, c'est pareil, c'est un terrain commun qu'on a tous les deux. Non, moi, j'ai plus une formation d'art visuel, donc je commençais par le dessin. J'ai un peu exploré toutes les techniques d'image, photo, vidéo, web design, et aujourd'hui, justement, des visualisations de données aussi. Donc là, c'est même boulot
voit, là, il y a un dispositif.
Alors, il y a quelques écrans là qui me mettent en image, mais vraiment très sommairement. C'est presque plus de l'ordre du cartel animé, on va dire, où en gros toutes les données qui sont captées, alors pas toutes, mais certaines données qui sont captées sur les plantes et dans la pièce, j'ai fait une sorte de mise en page qui permet de voir les chiffres bouger et de peut-être de comprendre un peu mieux de manière plus didactique ce qui est en train de se passer là.
Tu rends visible l'invisible comme rend audible l'inaudible.
Mais je débute, on va dire. C'est mes premiers pas. Donc j'ai pas encore la prétention de présenter ça comme vraiment un travail abouti. C'est plus plus de l'ordre du cartel. Ça vient compléter l'expérience sonore qui se passe à côté.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer à terme qu'on puisse voir se dessiner une œuvre visuelle à partir des variations?
Ah oui, c'est l'idée, ouais. Ouais. Alors soit visuelle à travers des écrans comme ça, vraiment des pixels où en gros là c'est de la programmation qui génère des images, des formes, etc. On pourrait jouer avec des photos, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui m'intéresse et qui nous intéresse aussi, ça serait aussi de mettre en scène des objets avec des objets animés, c'est-à-dire on peut, avec des données comme ça qui évoluent. Là, on contrôle des synthétiseurs sonores, on peut contrôler donc des pixels, comme je le disais, mais on peut aussi faire tourner des moteurs, on peut allumer des lumières. En fait, on peut tout faire aujourd'hui avec ces petits systèmes électroniques, là. Et c'est assez infini comme champ d'exploration. Donc, on a aussi, enfin, moi, j'ai beaucoup en tête de fabriquer des petites sculptures, des sculptures animées qui mettraient en scène les phénomènes invisibles qu'on capte d'une autre façon et qui seraient de toute façon en dialogue avec le son. Avec le travail sonore de Fanche.
Alors, une autre particularité aussi de votre collectif Ex Situ, si j'ai bien compris, vous travaillez aussi beaucoup sur les logiciels libres, enfin l'aspect un peu pécunier de toute la bidouille informatique qui nous entoure. Fanche ?
Je ne sais pas si j'en parlerai très bien, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer le libre et l'open source. Ce que je peux dire, c'est que c'est aussi quelque chose qui nous a réunis quand on s'est rencontrés. Disons que c'est un fil rouge, et je pense que c'est aussi un engagement d'essayer d'éviter les solutions commerciales et un peu trop pas facile, mais les solutions qui sont imposées. C'est un peu ça, l'idée, c'est d'éviter de se faire embarquer dans un... En fait, on a besoin de se fabriquer nos propres outils. C'est des outils qui soit existent et qui sont hors de prix. Donc on a besoin de développer des choses sur mesure. Donc je pense que c'est peut-être ça qui nous a emmenés vers l'open source.
Concrètement, vous n'avez pas utilisé de logiciel
Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble avec Fanche. Depuis le début, on a... Je ne sais pas si on a vraiment choisi, mais en tout cas, on était intéressé par les logiciels libres d'abord, et après tout ce qui va avec, c'est-à-dire le matériel libre, les ateliers libres, les espaces libres de travail, tout ce qui est libre. En fait, c'est le libre partage des connaissances et des savoirs. Si vraiment on veut mettre une étiquette, c'est une grosse étiquette, mais elle est un peu plus précise que ce mot libre qui, lui, est très flou. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous parle. et ça rejoint notre curiosité scientifique. Et là, du coup, je suis sur des choses plus techniques, c'est-à-dire la curiosité de comprendre comment ça marche, comment marchent les choses, et pas simplement d'être consommateur de, bah, d'un outil, un synthétiseur de son, ça peut s'acheter. Et il y en a qui coûtent très 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 cher, on ferait sûrement des super sons avec. Mais nous, ça nous passionne beaucoup plus d'aller comprendre, de partir de zéro presque, d'installer un système d'exploitation sur un ordinateur, de trouver le bon logiciel, de l'installer, de le paramétrer, de le prendre en main, ensuite d'arriver à connecter les capteurs dessus, et petit à petit, en tâtonnant comme ça, et en 10 ans, d'arriver à ce qu'on présente aujourd'hui. On en parle comme une recherche continue, c'est quelque chose qui est sans fin, où à chaque fois qu'on résout quelque chose, hop, on ouvre plein de nouvelles portes. Donc le fonctionnement, c'est qu'on a beaucoup utilisé, et ça c'est lié à notre génération, on utilise énormément de connaissances qui sont sur Internet. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible il y a 30 ou 40 ans. Et vu qu'on a beaucoup consommé ça, donc sans payer, du coup, c'est vraiment des données accessibles, on a à cœur aujourd'hui de documenter tout ce qu'on fait aussi et de le mettre aussi à disposition sur Internet. Donc c'est ce fonctionnement-là aussi qui se cache derrière ce mot libre. On ne vole pas des choses, juste on se les approprie, on les modifie et on les redonne ensuite à la communauté, aux utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit et qui, nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé possible il y a 10 ans de ça. Si on nous avait dit qu'on était en train de faire des choses aussi compliquées aujourd'hui, je sais pas si j'y aurais cru, mais ça m'aurait fait rêver en tout cas.
Et alors tous ces sons là, certains sont enregistrés, d'autres pas. C'est quand la sortie du prochain CD ?
La sortie du premier CD. Moi, j'ai jamais sorti de CD, mais j'ai fait de la zik depuis longtemps. Mais non, il n'y a pas de sortie prévue de CD, quoi. Non.
Non, vous n'avez pas envisagé un jour de faire un enregistrement de ces sons-là et de les présenter comme le CD des plantes. Ça vous intéresse pas, ça ?
Ouais, je pense qu'on se décalerait un peu de notre objectif, sachant que ce qui, moi, me touche, mais je pense ce qui touche les gens, c'est justement d'être en relation avec ces plantes, enfin en contact, à proximité avec ces plantes, et de se rendre compte que c'est elles qui génèrent, ou en tout cas qui modifient les paramètres de la musique, quoi. Et je pense que la poésie, elle se trouve à cet endroit-là, dans la relation entre l'auditeur et la plante. Du coup, non, pas de CD, pas de prévu en tout cas. Non.
On va voir un petit peu ?
Ouais.
Alors, on commence par la guitare ?
Ouais.
On va voir la guitare. Alors là, on est dans une petite pièce. Et au milieu de la pièce, il y a une guitare électrique posée au sol, branchée sur un ampli. Donc là, jusque-là, moi, je comprends ce qui se passe. Mais alors là, c'est après.
Alors, sur la guitare, il y a un petit spectromètre très simple. Donc un spectromètre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un capteur qui va capter la lumière, mais qui va, un peu plus précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il va diviser la lumière en certaines bandes de fréquences. Donc, par exemple, dans la lumière visible, le rouge de l'arc-en-ciel, c'est une bande de fréquence, le orange, c'en est une autre, le jaune aussi, etc., etc., jusqu'au violet. Là, c'est la même chose, sauf qu'on ne parle pas de la lumière visible, donc rouge, orange, jaune, etc., mais on est dans la lumière infrarouge, proche infrarouge, et on récupère, grâce à ce capteur, enfin 6 bandes de fréquence. Chaque bande correspond à un vibreur qui est posé sur une corde de la guitare. Donc 6 bandes de fréquence, 6 cordes. Et du coup, à chaque changement de lumière, quand la lumière change, quand les gens s'approchent, ou, enfin, voilà, le son va varier, tout simplement.
Des petits vibreurs sur un piano, c'est quoi ? C'est des petits marteaux. Des petits marteaux.
Bah là, ça fait office de marteau.
Des petits marteaux sur la corde.
C'est des vibreurs de téléphone portable.
D'accord.
Qu'on a programmé, qui viennent taper la corde. Donc ça, on l'a fait cette semaine. Donc c'est encore très... Ça fait longtemps qu'on y pense, mais on avait trop de boulot pour anticiper. Et du coup, c'est expérimental, quoi.
C'est la suite d'une recherche continue autour des vibreurs, justement. C'est pas la première fois qu'on joue avec ça. C'est un thème récurrent. Enfin, donc on a déjà fait une installation. On avait mis des vibreurs sur des panneaux solaires, reliés à des panneaux solaires sur des cymbales. Donc en plein air, là, pour le coup. où du coup c'était les nuages en passant devant le soleil qui modulaient la vibration générale de... Il y avait 16 cymbales, je crois. On a refait la même expérience avec une table d'harmonie de piano, pareil, qui était en plein soleil. Alors on est complètement tributaire de la météo dans ces expériences avec les panneaux solaires. Et là, c'est un peu différent parce que là c'est branché, donc ça fonctionne quelle que soit la météo. Mais c'est toujours la même idée d'avoir des petits... Voilà, des petits... Ouais, toujours les petits vibreurs, là, qui...
Le capteur enregistre aussi la température, enfin déduit de la lumière la température, et plus il fait chaud, plus ça va aller vite.
On va écouter un peu la guitare. Après avoir entendu la lumière faire de la musique, on va aller écouter les plantes vertes. Donc on retrouve... Donc il y a combien, une cinquantaine de plantes?
Ouais, une bonne cinquantaine de plantes, ouais.
Elles sont pas toutes capteurisées?
Non.
Certaines ont des petits capteurs sur les feuilles.
Il y a 8 plantes qui sont capteurisées. Je ne connaissais pas ce terme.
Moi non plus.
Mais ça me va bien.
Je crois que je viens de l'inventer, en fait.
Ouais, ouais. On le garde.
Okay. Ça fait partie du champ lexical libre.
C'est ça. Voilà. On peut se permettre d'inventer des mots.
Je te le donne. Tu peux l'utiliser.
Merci. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est sympa.
On le rendra un jour.
Ah, donc tu le donnes à quelqu'un d'autre.
Donc il y a 8 plantes sur lesquelles se trouvent des électrodes. Le reste, je vais pas dire qu'elles sont là pour la déco. Ce serait dommage, mais non, nous on cherchait. On a parlé d'une canopée intérieure, une canopée domestique, et c'est un peu l'idée.
Et donc là, c'est le procédé que tu nous expliquais tout à l'heure. Chaque capteur va sur un petit boîtier.
C'est ça.
Qui réceptionne les variations.
Ouais, il y a qui transmet ça à un petit ordinateur, un serveur, qui calibre les données, qui les renvoie à un autre module. Qui va sonifier, qui va s'occuper de la partie sonore, en fait.
Ouais.
Donc chaque module, il y a 3 modules par kit, et chaque module est programmé pour jouer son rôle. Ouais.
Ça, tout ça, c'est vous qui l'avez entièrement fabriqué?
Ouais, complètement. C'est marrant parce qu'il y a 2 générations là de boîtes. Il y a celles qui sont noires, là, c'est la dernière évolution. Et celles qui ne sont pas peintes, c'était la série d'avant qu'on avait fait. Donc il y en a 4
en bois
brut. Voilà. Mais du coup, ces 2 systèmes... Enfin, c'est intéressant parce que ça montre aussi l'évolution dans nos réflexions, plus en termes d'ergonomie, d'utilisation, de choses plus pragmatiques, on va dire, mais qui nous passionnent aussi. Alors les anciennes boîtes, elles ont tout est intégré dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'alimentation, la captation, l'ordinateur qui fait la synthèse, enfin, qui traite le signal, les données, et qui les traduit en son, et la petite enceinte qui génère le son. Quoi.
Okay.
Et c'est vraiment ça qu'on utilise beaucoup, beaucoup, avec les Arduino qui sont au-dessus, là, qui, lui s'occupe vraiment de l'arrivée des données. C'est-à-dire, c'est toute la partie capteur. Lui, il va traduire les mesures d'un signal électrique, il va les traduire en numérique. Et ensuite, il les envoie à l'ordinateur.
D'accord.
Le petit ordinateur, lui... À partir des données numériques, là, il fait du son. Donc, il y a un programme qui tourne, qui fait de la synthèse sonore en direct. Mais il pourrait faire autre chose. Il pourrait très bien faire des pixels sur un écran
oui,
ou autre
ça,
chose.
Ouais.
Et du coup, dans ce modèle de boîte, le système audio est aussi intégré. Donc, on ne le voit pas parce que c'est plus sensible, mais il y a un petit ampli audio derrière. Là.
Ah oui, on voit un petit bouton.
Et une petite enceinte. Et donc, ça, c'est vraiment une boîte tout en un où on l'ouvre, on la branche, on connecte la plante et hop, ça marche. Et du coup, l'autre génération de boîtes, ce que disait Fanch, c'est qu'il y a 3, pour chaque captation, il y a 3 boîtes à chaque fois. Il y a une boîte qui contient que les capteurs, une autre qui est l'ordinateur, donc qu'on appelle le serveur, donc qui reçoit les données captées, tout ça par Wi-Fi en plus, donc on peut les séparer dans l'espace. Et la boîte serveur, une fois qu'elle a reçu les données, qu'elle les a formatées, elle les renvoie, là en l'occurrence, à une boîte qui va, elle, générer la synthèse sonore. Et qui est équipé pour faire, qui a 2 enceintes, tout ça, qui fait un son un peu plus précis que les vieilles générations. Mais on pourrait imaginer avoir d'autres boîtes, vu que tout ça fonctionne en Wi-Fi, on peut avoir un réseau, on pourrait avoir une autre boîte qui est connectée à un écran, une autre qui fait tourner des moteurs, mais toutes contrôlées par la même captation. Et c'est là qu'on parle de plutôt de quelque chose de très modulaire. C'est l'étape qu'on vient de franchir justement avec cette nouvelle génération de boîtes. Et on est super contents parce que c'est la première fois qu'on les branche toutes comme ça. Là.
D'accord.
Donc c'est la première fois qu'on teste ce rêve qu'on a en tête depuis très longtemps.
Ces boîtes-là, elles ont circulé dans une quinzaine d'écoles dans le Finistère.
Ouais.
Et on les a récupérées lundi, on est samedi. Du coup, on a eu quelques jours pour bosser dessus et on est arrivé, il fallait faire le montage, le montage de l'exposition.
Alors, et d'ailleurs, quand j'ai rencontré les gens de Cactus, ils me disaient que tout ce qui a été créé comme son dans les écoles, là, ça a tourné dans une quinzaine d'écoles pendant
trois mois.
Vous avez récupéré les données des sons produits par les plantes pendant leur petit périple finistérien.
Ouais.
Qu'est-ce que vous allez faire de... C'était la question qu'on se posait. Donc, moi, j'ai dit une symphonie, mais...
Moi, j'ai une petite envie. Il faut que je t'en parle, Bart, mais...
On n'a pas eu le temps encore de parler.
Non, on n'a pas eu le temps de parler. Non, mais c'est en voyant ça. C'est que j'aimerais vraiment...
Je crois que je vais avoir un scoop.
J'aimerais bien, à partir de ces données-là, tirer des partitions. Mais des partitions lisibles par des musiciens, quoi. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas, mais j'aimerais quand même bien avoir une partition. Et du coup, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, une symphonie. Bon, je n'ai pas la prétention de faire une symphonie. Quoique je peux me dédouaner, je peux dire que c'est les plantes qui l'ont fait.
C'est pas toi qui l'as écrite.
Mais il y a quand même, il faut quand même essayer de trouver une logique dans ces données avant de se dire ok, ce truc là c'est le do, ce truc là c'est le fa, ce truc là c'est le timbre de tel instrument ou je sais pas, ou le tempo. Et pour ça il va falloir éplucher, donc regarder comment ça évolue, mais aussi avoir des cours, tout ça. Et
tu peux pas décider de façon aléatoire de dire
Si, je peux très bien le décider. Par contre, ça va être horrible à la fin. Enfin, au niveau harmonique, on sort de ce que nos oreilles. Du coup, on est très fidèle. Si on est fidèle, c'est scientifique. S'il y a une interprétation, ça devient artistique. Mais pour qu'il y ait une interprétation, il faut comprendre les données. Et du coup, il faut une analyse. Enfin, il faut qu'on prenne le temps d'analyser tout ça.
C'est la première fois qu'on enregistre sur un temps aussi long des données, parce que là, les deux pièces qu'on vient de voir, la guitare et la canopée, c'est des choses qu'on a d'une certaine façon déjà fait, parce que c'est du live en fait. C'est des données qui sont sonifiées en live, donc on écoute des phénomènes qui se passent devant nos yeux, qu'on peut pas voir, mais qu'on ressent par les oreilles. Mais on l'a déjà fait, en général on enregistre les données, mais on n'avait jamais fait tourner comme ça des enregistrements sur, là en l'occurrence, je crois que c'est deux mois et demi d'enregistrement continu. Et c'est la première fois qu'on se retrouve comme ça avec une quantité de données un peu brute, où il y a plein de... Il va falloir les nettoyer parce que c'est vraiment un prototype, ça, vu que c'est la première fois. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, parce qu'il y a vraiment tout le temps ces deux pans, quoi. À la fois on peut faire du live, et pendant qu'on fait le live, on peut enregistrer ces données pour après avoir une autre lecture accélérée, du coup, en time-lapse, quoi. Et du coup avoir une autre vision aussi, voir d'autres choses qui sont pas visibles en live, c'est-à-dire par exemple le rythme solaire. L'installation canopée, elle va sûrement évoluer entre le matin et le soir, ce sera pas la même mélodie. Alors elle évolue tout le temps, mais juste du fait du soleil, elle va évoluer. Mais ça, on ne peut pas le sentir, sauf si on vient le matin, qu'on enregistre, qu'on revient le soir et qu'on compare les deux. Là, on pourrait comprendre. Par contre, si on enregistre les données pendant ne serait-ce qu'une semaine et qu'on l'écoute en 10 minutes, et ben là, on va entendre les variations du soleil, du cycle solaire d'un seul coup. Quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui me fascine beaucoup aussi. Enfin, c'est le temps. C'est le fait d'enregistrer. D'un seul coup, on peut jouer avec quelque chose qui est invisible aussi, qui est le temps, quoi. Et le rendre visible. Moi, je rêve de brancher un truc qui tourne pendant 10 ans, qui enregistre des données, qui regarde un arbre pousser, ou qui a des phénomènes comme ça qui sont très très lents dans la nature, enfin à notre échelle en tout cas, qui contiennent de toute façon une poésie. Et c'est, voilà, c'est un terrain d'exploration infini, encore une fois.
Bah, merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans ce monde extraordinaire de l'inentendable que vous avez rendu sonore pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.